BW. Magazine Santé.
Prendre en charge des patients dans une zone en conflit. En République démocratique du Congo, la recrudescence des attaques de groupes armés, en Ituri notamment, dans l'est du pays, a entraîné un grand nombre de morts et de blessés. Sur place, les équipes de l'Organisation médicale internationale Médecins sans frontières dirigent un centre de soins chirurgicaux dans la ville de Bounia, la capitale provinciale. Quelle est la situation sur place et comment se fait la prise en charge? On en parle tout de suite avec le docteur Patrick Nkemenang, directeur médical pour MSF en Ituri. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour docteur Patrick Nkemenang.
Bonjour madame.
Alors avec vous, on va parler de la situation dans l'est de la RDC, principalement en Ituri où vous êtes. Les affrontements entre rebelles et l'armée congolaise dans la région font régulièrement des victimes. Et il y a aussi un grand nombre de personnes blessées, tuées lors d'attaques ou de rebelles. Comment se présente actuellement la situation des populations des régions concernées, notamment sur le plan sanitaire?
La province de l'Ituri, c'est une province qui... connaît depuis plusieurs années des crises qui sont devenues pratiquement chroniques. C'est un théâtre de multiples groupes armés qui commettent des atrocités entre elles et aussi surtout des atrocités au sein des populations civiles. Ceci en passant par des pillages, des incendies, des structures sanitaires. Et ceci entraîne vraiment une situation que je pourrais décrire comme une situation d'urgence chronique qui malheureusement entraîne beaucoup, beaucoup de victimes en termes de blessés, en termes de tueries. À travers nos activités, on essaye au maximum possible d'apporter assistance à toutes ces victimes-là au quotidien.
MSF est active dans la région. Il y a aussi le centre de traumatologie Salama qui donne des soins de santé aux populations affectées par toutes ces violences. Quels sont précisément ces soins?
MSF, nous sommes positionnés au niveau de la ville de Bounia avec un centre de traumatologie de référence qui, au quotidien, reçoit toutes les victimes de violences, de blessés liés au combat et également liés aux accidents du trafic routier et tout autre cas de traumatologie domestique. Donc, à travers ce centre-là, nous parvenons à gérer au quotidien des victimes. Et à date d'aujourd'hui, sur environ 9 mois d'activité, nous avons plus de 1000 personnes que nous avons réussi à prendre en charge dans ce centre de traumatologie. Nous avons également, au niveau des zones de santé périphériques où se géolocalisent tous ces groupes armés-là, nous supportons également ces centres de santé à travers le prépositionnement des différents kits de réponse en cas d'afflux massif de blessés. Nous formons des équipes dans des zones de santé qui s'y trouvent, leur donner des coups de main pour pouvoir apporter les premiers soins d'urgence et pouvoir stabiliser les patients afin d'organiser un système de référence vers Bounia où nous sommes présents. Par exemple, nous avons une dizaine de zones de santé tout autour de la ville de Bounia avec lesquelles nous sommes en contact au quotidien, que nous supportons, nous renforçons en termes de prépositionnement, comme j'ai dit, des titres, en termes de formation des équipes, à la stabilisation et à la référence des victimes de violences dans ces zones de santé et qui fait le théâtre de plusieurs groupes armés et des combats au quotidien.
Est-ce que vous recevez beaucoup de blessés par balle ou à l'arme blanche?
Nous recevons à la fois des patients qui sont victimes des plaies balistiques, tout comme ceux qui sont victimes également des plaies par arme blanche. Je pourrais parler ici d'un ratio d'environ 50-50% environ. Et il faut noter que sur la porte de plus de 1000 patients que nous avons déjà eu à traiter dans notre centre, nous avons près de 30% de ces malades-là qui sont véritablement victimes de ces atrocités, de plaies par arme blanche ou bien plaies par arme à feu.
On imagine que prendre en charge ce type de blessés n'est pas toujours très, très facile, surtout dans une zone sécuritaire instable. Comment ça se passe concrètement? Quelqu'un qui arrive blessé par balle, comment ça se passe concrètement la prise en charge?
Nous avons un réseautage à travers les structures sanitaires satellites tout autour de la ville de Bounia. Lorsque nous avons l'information d'une attaque ou bien d'un combat entre les groupes armés, et très rapidement, nous communiquons avec la zone de santé pour activer le plan de réponse aux afflux de blessés. Ça veut dire que après les combats terminés, rapidement les blessés sont transférés dans ces hôpitaux de référence-là et stabilisés avec l'équipe que nous avons prépositionnée, avec des équipes qui sont formées par nous. Et très rapidement, ils nous contactent pour pouvoir organiser un système de transfert dans notre hôpital de référence de traumatologie qui est à Bounia. Et ce système de transfert-là peut se faire via les partenaires en place. Ça peut être par voie hélicoportée ou bien par voie terrestre, si jamais l'accès sécuritaire nous le permet. On envoie une ambulance ou bien ils mettent leur ambulance sur la route selon l'analyse sécuritaire de l'axe où il y a des combats. Et rapidement, nous allons chercher le malade avec notre ambulance à l'aéroport ou à l'entrée de la ville pour le transférer dans la structure. Immédiatement, les équipes sont donc activées pour pouvoir prendre la relève pour la prise en charge.
Tel que vous l'expliquez, ça nécessite beaucoup de mobilisation, de ressources. Est-ce que vous avez ces ressources ou est-ce qu'il vous arrive que vous soyez confronté à des ruptures de stock, par exemple? Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe?
Étant dans un contexte d'urgence chronique, le projet qui, il y a un an, on a pris la peine de nous préparer déjà en termes de ressources médicamenteuses, en termes de ressources humaines. Nous faisons avec du personnel, par exemple, les expatriés, des chirurgiens, des anesthésistes, des médecins, et nous associons à eux également le personnel local pour créer une équipe mixte et surtout assurer la pérennisation du projet au moment où nous allons quitter. Donc, on sera sûr d'avoir une équipe mixte internationale, de l'expertise internationale de chirurgie MSF associée à la compétence locale. Nous avons également un système d'approvisionnement des médicaments conséquent. C'est vrai, c'est lourd en termes de supply, en termes de pharmacie, mais ça fait partie de notre quotidien pour assurer que nous mettons tout le paquet en jeu pour assurer la gestion de ce centre de traumatologie.
Puisque vous parliez tout à l'heure de chirurgie, hein, est-ce que les soins chirurgicaux sont accessibles à tous dans la région ou c'est difficile pour les patients d'avoir accès à ces soins?
Ça reste relativement compliqué hein, parce que dans l'Ituri, toute la province de l'Ituri, qui a plus de 6 millions d'habitants pratiquement dans toute la province, nous avons moins de 5 chirurgiens pour toute la province. Les soins chirurgicaux spécialisés sont assez difficiles d'accès, donc surtout en zone périphérique. Et c'est d'ailleurs une anticipation que nous comptions faire dans les mois à venir dans notre projet, voir dans quelle mesure on peut davantage capaciter les chirurgiens, les équipes médicales de ces zones de santé périphériques, des médecins généralistes, des infirmiers, à poser les premiers gestes de stabilisation, en fait, en attendant la référence. Et il est clair qu'il y a vraiment un accès difficile aux soins chirurgicaux spécialisés dans la province de l'Ituri, et particulièrement dans les zones les plus reculées, qui sont malheureusement des zones de combat.
Quand on parle de soins chirurgicaux dans ce cas précis, est-ce qu'il s'agit par exemple de recoudre des plaies, d'extraire des balles ou concrètement, de quoi s'agit-il dans la région?
Oui, il s'agit de tout ça. Vous recevez des patients parfois avec des plaies balistiques qui ont perforé pratiquement au niveau de l'abdomen. Ça veut dire parfois ça touche des organes qui sont assez importants dans le corps humain. Des plaies qui ont touché parfois la rate, et ça peut entraîner des saignées très graves. Ça nécessite là une certaine compétence chirurgicale. Des plaies qui peuvent perforer l'intestin, balistiques qui peuvent perforer l'intestin, ou des plaies qui peuvent toucher au foie. Donc ça nécessite vraiment une compétence assez avancée pour pouvoir stabiliser ces patients-là avant la référence. Et pareillement, également, on a des plaies par arme blanche sur les tissus mous et osseux. Parfois, vous recevez des patients qui vous arrivent avec des plaies complètement béantes, des coups de machette, des gens qui ont été découpés pratiquement. Dans la zone de Drodro, ça fait moins de 2 semaines, par exemple, nous avons reçu deux blessés assez graves, dont un qui a été victime d'un traumatisme par arme blanche pendant le conflit, qui s'est retrouvé en train de recevoir des coups de machette sur son crâne pratiquement, et qui nécessitait des sutures en urgence. Et on en a reçu un autre avec une fracture pratiquement de son bras par arme à feu. Ça fait moins de 2 semaines. C'est des cas qu'on reçoit au quotidien. Nos équipes vivent au quotidien. Et face à ça, la prise en charge, elle est pratiquement holistique parce que face à ce malade-là, l'urgence, elle est chirurgicale, certes, mais il y a tout un paquet d'activités que MSFE met en jeu pour pouvoir accompagner l'approche globale holistique de ce patient. J'entends par approche holistique le volet psychosocial, le volet de la physiothérapie et la réhabilitation, et toutes les composantes qui vont avec.
Donc, il y a tout un suivi hein, du patient après l'opération chirurgicale. Vous parliez tout à l'heure des pathologies qui ne sont pas visibles, l'impact psychologique de la violence sur les populations. À ce sujet, qu'est-ce qui leur est proposé concrètement en termes de soins? C'est des séances de psychothérapie?
Effectivement, une fois que le patient nous retrouve à l'hôpital, dans la structure, l'urgence étant levée, le patient, quand il retourne dans son lit, il faut aborder le volet psychologique et même le volet social. Ça passe par les entretiens individuels au quotidien avec nos psychologues. Ça passe par des séances d'animation, le recontact, recréer un lien entre cette personne-là et sa famille pour pouvoir lui apporter ce support-là et faciliter la réinsertion sociale après son rétablissement. En
Bon.
même temps, il ne faut pas oublier les soins de kinésithérapie, de physiothérapie, de rééducation fonctionnelle qui sont très importants dans ce genre de contexte.
Pour vous qui travaillez dans cette zone instable, quelle est la plus grande difficulté pour vous et le personnel médical sur place?
Je pense que nous l'avons crié, nous continuons à le décrier à travers tous ces groupes armés en leur disant stop, il faut protéger la mission sociale humanitaire, il faut protéger les infrastructures sanitaires. Les hôpitaux, les pharmacies qui sont pillées, je crois qu'il faut stopper ça. Ça, c'est l'une des choses qui nous empêche vraiment d'avoir accès à ces zones de santé pour pouvoir mener à bien nos activités. Ça veut dire y accéder pour former le personnel de santé dans ces zones de santé périphériques, pour les approvisionner en médicaments, les supporter pour qu'ils puissent stabiliser les patients victimes de ces atrocités et nous les référer en toute quiétude. Et deuxièmement, c'est un problème également d'accès. Voyez-vous, nous avons vraiment beaucoup de la peine à faire transférer les patients vers le centre de référence. Pourquoi? Parce que les routes ne sont pas accessibles. Il y a beaucoup d'insécurité dans le trajet. Malheureusement, on ne parvient pas toujours à recevoir les blessés. Nous avons des chiffres sur les morts, mais nous ne parvenons pas à avoir la visibilité sur ceux qui ont été blessés et qu'on peut se transférer vers nous pour être sauvés.
Et il y a aussi la question même de la sécurité du personnel soignant. Vous êtes aussi parfois pris pour cible.
Évidemment, évidemment. Au niveau également du personnel soignant, nous le décrions à chaque fois. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir sauver des vies, en fait.
Merci beaucoup, docteur Patrick Nkemenang.
Merci beaucoup, je vous remercie.
C'est déjà la fin de ce magazine. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.com/français pour écouter le podcast de l'émission.